Soyez les bienvenus à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazou. Si vous êtes béni, contactez-nous au www.abmci.net ou au 2241 75 53. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Le thème de mon exhortation ce matin, c'est « Grandir dans la douleur ». Est-ce que tu peux dire pour moi « Grandir dans la douleur » ? Ça, c'est la partie 1. On va voir ça sur 3-4 dimanches. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets qu'on va lire. On va d'abord lire Hébreux 12, versets 2 à 3. Hébreux 12, versets 2 à 3. Oui.
Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point là découragé.
On va s'arrêter là. Va dans, maintenant dans Jacques 1, verset 4, et puis après tu finis le verset 4, tu vas au verset 12. Jacques 1. 4 et 12.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Verset 12.
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
Amen. Ecclésiaste 1, verset 18. Vous entendez tous ces passages? Ecclésiaste 1, 18.
Ecclésiaste 1, 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur.
Celui qui augmente sa science augmente en même temps sa douleur. Ésaïe 17, verset 11, pour terminer.
Ésaïe 17, verset 11. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la révolte a fui au moment de la puissance. Et la douleur est sans remède.
Et la douleur est sans remède. Est-ce qu'on peut dire et la douleur est sans remède?
Et la douleur est sans remède.
Donc ce matin, merci, nous allons parler de ce que j'ai dit, c'est juste l'introduction. Grandir dans la douleur. Ou comment tirer le meilleur des moments difficiles ou douloureux que nous traversons dans la vie. Comment tirer le meilleur des moments difficiles ou douloureux que nous traversons dans la vie. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas tomber, mais c'est comment se relever. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur comment grandir dans la douleur. Alléluia. Vous savez, le mystère de la vie est défini dans la Bible par un certain nombre de choses que nous savons. Lorsque vous posez souvent la question à quelqu'un en lui demandant « Comment vois-tu la vie ? Qu'est-ce que c'est que la vie ?» Il te répond souvent par « Je pense que la vie c'est une course, la vie c'est un marathon, la vie c'est un combat, la vie c'est un... » Donc chacun a dans l'imagerie populaire une idée de ce qu'il appelle la vie. Par exemple, quelqu'un va te dire, non, la vie pour moi c'est un jeu. Mais quelqu'un qui pense que la vie est un jeu, privilégie donc dans sa vie de tous les jours, s'amuser au maximum parce que la vie est un jeu. Parce que demain on part. Quelqu'un qui privilégie ou qui pense que la Bible c'est un combat est quelqu'un qui va exalter ou qui va donner valeur au résultat, à tout ce qui est. Il faut gagner. Il faut gagner parce que plus la vie est un combat, et dans un combat, on gagne toujours. Donc, l'obsession de toujours gagner dans n'importe quel défi sera son obsession en fonction de ce qu'il pense de la vie. Quelqu'un qui pense que la vie est une course, c'est quelqu'un qui va privilégier la vitesse. Dans tout ce qu'il fait, il va toujours vouloir faire vite et aller vite. Parce que pour lui, la vie est une course. Quelqu'un qui pense que la vie est un marathon, et quelqu'un qui va privilégier l'endurance, il va te dire dans tout ce que tu fais, ne sois pas pressé, mais sois endurant. Donc, en fonction de ce que chacun pense de la vie, alléluia, chacun se définit un mode de vie, ou une façon de faire, ou une façon de voir les choses. Mais, que dit la Bible? Quand on lit la Bible, quand on observe la Bible, que pense la Bible? La Bible dit quoi de la vie? Il y a trois éléments importants. Nous allons voir le premier seulement aujourd'hui, en partie. La Bible dit par exemple que la vie est une preuve. Ça, la Bible dit. Deuxième élément, la Bible dit que la vie est une responsabilité. Et en troisième élément, la Bible dit que la vie est un voyage, un pèlerinage. Revenons au premier point, parlant de la vie est une preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me définir une preuve ce matin? Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Oui. Parce que le plus important c'est pour toi, c'est de comprendre ce que je veux te dire ce matin et le message que Dieu veut te communiquer ce matin. Et ce message est un message, si tu l'as compris, tu pourras passer le message à ceux qui sont autour de toi. Et si tout le monde comprend, la Côte d'Ivoire peut devenir encore meilleure. Oui. Qu'est-ce qu'une preuve? Yann Mabé, qu'est-ce que le preuve selon toi?
Une preuve, c'est une situation difficile. Je me mets dans la vie de un homme.
Donne-lui le micro. Pour que tout le monde écoute ce qu'il dit. Parce qu'on vient à l'église pour apprendre et devenir meilleur, oui.
Une preuve, une situation difficile. Une personne traverse et n'est pas liée à un péché ou à une désobéissance. Mais que Dieu le fait vivre afin de l'amener à notre niveau.
Merci. Très bonne définition. Une preuve est une situation difficile qu'un homme traverse, qui n'est pas liée au péché, mais que Dieu fait traverser, ou Dieu envoie cet homme-là dans cette situation pour le rendre meilleur. Qui est notre définition? Oui, docteur. Donne-lui le micro.
De façon littérale, qu'une épreuve, c'est une situation d'examen, une évaluation.
Une évaluation. Ça, ça me plaît. Une épreuve est une évaluation. C'est un examen. Maintenant, si on met toutes ces définitions ensemble, une situation difficile, une situation de douleur, est une situation d'examen. Amen. Donc, la situation qu'a traversé ce pays est une situation d'examen. La situation que tu as traversée est une situation d'examen. Dis, c'était une situation d'examen. Vous voyez, comprends donc la Bible, comprends la parole de Dieu, t'aide toujours à devenir meilleur. Parce que vous voyez, tout à l'heure, je suis entré. C'est bien lui que Dieu m'a parlé sur ce que je suis en train de dire. Et quand je suis entré tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, il y a certaines personnes qui
ils sont en train de se complaindre ou chercher à tirer, comment on appelle là, cherche le mot. C'est-à-dire, les situations de difficulté ou la difficulté qu'ils ont vécue, ils veulent utiliser ça pour s'apitoyer sur leur sort, ou Satan va les maintenir dedans, ils vont se plaire dedans, ça va devenir le, comment on appelle ça, le drapeau qu'il faut agiter. Ce n'est pas un trophée. La Bible dit, relève-toi, toi qui es tombé. Donc, c'est des choses qu'il faut très vite sortir. Au lieu de s'asseoir là et croire que c'est, tu vois, et en faire pour un fonds de commerce. On ne peut pas en faire un fonds de commerce. Est-ce que je peux te parler ce matin? Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Quel que soit ce que tu peux dire dans la vie, c'est pourquoi, vous savez, Dieu choisit et il décide que A passe par là, que B ne passe pas par là. Parce que quand A passe, c'est utile pour A, mais si B passe, ça peut ne pas être utile pour B. Amen. Non, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui, est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui décide? Oui. Dans une situation de délivrance, il y a des choses que Dieu va t'imposer qu'il ne va jamais m'imposer. Parce que ce ne sera pas utile pour ma croissance. Qu'est-ce que Dieu recherche dans la vie des hommes? C'est la croissance. C'est pourquoi on n'a pas les mêmes histoires. Deux personnes n'ont pas la même histoire. Et on n'aura jamais les mêmes histoires. Dis Amen. Et les crises ne vont jamais se ressembler. Dis à ton frère, grandis dans la douleur ce matin. Donc une épreuve est une situation difficile. Et donc je peux le dire que nous avons passé une épreuve. Parce que si nous considérons l'épreuve par rapport à toutes ces définitions-là, la Côte d'Ivoire va passer une grande épreuve. Est passé par un moment de douleur. Maintenant, qui peut me définir la douleur, c'est quoi? Une douleur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une douleur? Pour comprendre les choses, hein? Voir mieux les gérer. Une douleur, c'est quoi? Une douleur peut nous ramener à la situation d'épreuve. Peut nous ramener à la situation difficile. Une douleur peut nous ramener parce que quand on dit j'ai mal, est-ce que c'est on voit le mal là sur ton front? Oui.
La douleur, c'est le mal ressenti.
Ressenti. C'est-à-dire, une douleur est liée aux émotions.
C'est le mal qu'on ressent.
C'est le mal. On ressent.
Mal ressenti.
Ok. Maintenant. Je n'aime pas bien le mot mal ressenti, ça me gêne un peu. Bon, le mal ressenti, ça me gêne, oui. Je veux que tu me trouves quelque chose en place de mal. Hein? Parce que tu peux traverser un moment de douleur sans que ce qui te crée la douleur à soi mauvais. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il faut enlever le mot mal. Le mal. On ressent. Le mot, le mal ici, là, c'est ça qui ne me plaît pas trop. Donc, je peux dire, quelqu'un peut être dans une situation douloureuse quand éventuellement ses sentiments ou ses attentes et son espérance ne se rencontrent pas. C'est-à-dire, j'ai une attente et mes attentes et ce que ce qui arrive, il y a décalage. Je peux être malheureux. Je vis une situation de douleur. J'ai une attente. Je veux que quelque chose se passe comme ça. Et puis il y a autre chose qui arrive. Je suis dans une situation de douleur. Parce que dans tous les cas, la douleur ici est liée à un sentiment un sentiment de quoi? Hein? D'insatisfaction. Un sentiment de quoi? Hein? De déception, de frustration, de peine, d'amertume. Mais tout ça, c'est des mots. Personne ne peut me dire ce que amertume là, c'est. Ça dit, c'est quoi amertume? Tu ne peux pas prendre quelqu'un comme ça, mon frère. Amertume, c'est quoi? Il ne saurait pas te dire. Amertume, lui, il sait que dans sa tête, ça ne va pas bien. Amertume. Donc, c'est des mots. Donc, à tous les niveaux, chacun a vécu une situation douloureuse. Chacun a eu mal. D'autres, peut-être, ça a été physiquement, d'autres, émotionnellement, d'autres, sur le plan psychique. Mais dans tous les cas, chacun a eu mal quelque part. Donc, quand je parle de situation de douleur, je ne parle pas de situation physique seulement, mais je parle de physique, émotionnel, psychique, sentimental. Donc, nous tous ici, y compris les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tout le monde a souffert. Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert plus que quelqu'un. Parce qu'il n'y a rien pour évaluer que toi, ton degré de souffrance, c'est 100%, pour lui, c'est 10%. Parce qu'il y a des douleurs émotionnelles qui sont plus fortes que les douleurs physiques. Quelqu'un va te dire, je préfère être blessé que de souffrir l'émotion. Ou, quand souvent, dans les sentiments amoureux, quand un homme abandonne une femme, ou bien la femme abandonne, trompe le monsieur. Le monsieur, c'est terrible. Même s'il a la femme, c'est bon. Le gars, il se dit, monsieur, c'est terrible. Il n'explique pas, mais il est malade. Il n'arrive pas à manger, il ne peut rien faire. Alléluia. Alléluia. Même si tu l'as fait 1000 ans, 10 jours d'un prison, pour lui-même, ça c'est bon. Donc, quand on parle de situation de douleur, à tous les niveaux, chacun, c'est pourquoi ce matin, regarde ton frère et dis-lui Yako. Alléluia. Oui, et le Yako doit être à tout le monde. Je suis en train de vous faire comprendre et vous amener à comprendre que tout le monde souffre. Tout le monde a traversé des preuves de souffrance. Mais est-ce qu'il faut rester dans la souffrance, dans cette situation de douleur? C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce qu'il faut en rester? Réponds-moi. Rester ou ne pas rester? Alléluia. Maintenant, je vais te poser une question. Écoute-moi bien ce matin. Est-il possible de comprendre Dieu? Oui ou non? Tous ceux, quels sont ceux qui sont pour le oui? Est-il possible de comprendre Dieu? Il y en a qui disent oui. Ceux qui sont pour le non? Beaucoup. Ok. Moi, je veux te répondre. C'est possible de comprendre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-il possible de comprendre Dieu? Oui. Il me cite, la Bible dit, ses voix sont. Oui, docteur.
Il a dit que les voix de Dieu sont insondables. Donc, c'est la grandeur de Dieu qui est
insondable. Il y a des théoriciens ici, hein? Alléluia. Lorsque la Bible dit les voix de Dieu sont insondables, c'est une vérité. Mais lorsque la Bible dit les voix de Dieu sont insondables, est-ce que cela se réfère à quoi? Parce que la même Bible dit également que Dieu a gardé les choses cachées pour lui et les choses révélées, il nous les a montrées. Et la Bible dit Dieu révéla ses voix à Moïse. Donc, il n'y a pas de contradiction. Quelque chose peut être complexe, mais la personne ou la personnalité qui est complexe peut décider de te donner accès à sa complexité. à sa complexité. Mais le fait de te donner accès à sa complexité n'enlève pas sa complexité. Donc, lorsque la Bible déclare que les voies de Dieu sont insondables, c'est vrai, elles sont insondables pour ceux qui sont aveugles. Mais quand sa lumière arrive à un homme, ce qui est insondable devient révélé. C'est pourquoi il y a des choses que tu comprends maintenant, qu'il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, quand tu t'es converti ou bien tu étais encore bébé, si on te disait ça, tu as dit, c'est pas vrai. C'était encore un soldat pour toi. Mais aujourd'hui, plus. Donc, on peut comprendre Dieu. Deuxième question. Alléluia. Quels sont donc les critères qui permettent à un homme de comprendre Dieu ou de donner un point de vue sur une action divine? Parce qu'il y a des critères. Parce que vous voyez, quand un peuple en général passe des moments de difficulté ou des moments de douleur, les gens se posent des questions. Mais où est Dieu? Pourquoi Dieu? On ne le comprend pas. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a permis ça? Pourquoi il n'a pas permis ça? Et donc les gens se posent beaucoup de questions. C'est pourquoi je dis souvent, vous n'avez pas, c'est Dieu qui décide qui va vivre une expérience, qui ne va pas vivre l'expérience. Toi, être humain, tu n'as pas mandat ou pouvoir de décider que quelqu'un vive une expérience. Tu n'es pas Dieu. Donc si tu l'as vécu, dis gloire à Dieu. Pour la personne qui n'a pas vécu, dis gloire à Dieu. Parce que les deux situations concourent ou travaillent toujours pour l'accomplissement de sa volonté.
Amen.
Amen. À un moment donné, Joseph aurait pu maudire Dieu parce que Dieu lui a donné une parole qui l'a exilé pendant ces années. Mais il a fallu, au lieu des frères de Joseph, que eux restent auprès de leur père et que Joseph seul parle. Ou plus tard, le salut du peuple. C'est important. C'est important. Apprenez à connaître Dieu et à comprendre Dieu. Parce qu'on peut comprendre Dieu. Maintenant, je dis, il y a des critères. Quand tu veux faire une analyse d'une situation qui se présente, c'est important de tenir compte d'un certain nombre d'éléments que je vais vous donner rapidement et puis on va avancer. Nous savons que la Bible nous dit que Dieu est omniscient. Donc Dieu sait tout d'avance. Ça, c'est un élément important que tu dois mettre à la base de toute analyse que tu veux faire d'une situation pour comprendre la volonté de Dieu dans la situation ou non. Dieu sait tout. Alléluia. On dit Dieu sait tout. Est-ce qu'on peut répéter Dieu sait tout? Apocalypse 1, verset 8, la Bible nous décrit cette toute puissance de notre Dieu. Dieu sait tout. Maintenant, une situation se présente, tu veux comprendre Dieu dans la situation. Numéro 1, Dieu sait tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation, il n'y a aucun événement, il n'y a aucun problème qui échappe. Donc, si on part sur cette base d'abord, qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu et que tout ce qui arrive, Dieu sait d'avance. Il sait. C'est un élément important. Hein? Dieu sait tout. Et si je ramène cela à la situation de ce pays, la Côte d'Ivoire, tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, Dieu le savait. Avant même la fondation du monde. Il sait. Tout d'avance. Il sait qu'on prend tout d'avance. Deuxième élément, parce qu'après on va revenir sur un point global. Deuxième élément. Dieu contrôle tout dans la limite de sa volonté.
Exode 6, verset 3, Genèse 17, verset 1. Dieu, ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelque chose est ou arrive, il n'a pas perdu le contrôle. S'il contrôle tout. Vous savez, vous connaissez le Dieu avec qui vous marchez. Dieu contrôle tout dans la limite de sa volonté. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Donc, quand quelque chose est, même quand c'est l'ennemi qui a fait, Dieu a toujours le contrôle.
Amen.
Vous savez, il y a longtemps, Dieu m'a fait comprendre une vérité qui m'a délivré. Il m'a dit, à chaque fois, fils, que tu vois quelque chose qui arrive et qu'on n'a pas pu arrêter, c'est que je maîtrise la situation.
Amen.
Parce qu'il m'a, et puis il m'a répliqué, il est revenu vers moi et me dit, si je ne maîtrise pas une situation, la situation ne peut jamais être.
Amen.
Si tu vois que je laisse faire, ça veut dire que j'ai la maîtrise. Quand je perds le contrôle, ça n'arrive pas. Il y a toujours des incrédules qui ne vont jamais prendre la vie. C'est pas à eux que je parle. Je parle à ceux qui ont leur cœur ouvert et qui veulent comprendre Dieu ce matin. Est-ce que vous saisissez cette vérité-là? Moi, je peux, parce que je peux revenir. Moi, je ne suis pas pressé. Hein. Si tu comprends ça, parce que beaucoup peuvent se poser des questions. Et je sais que beaucoup se posent des questions. Vous savez, quand je suis arrivé à Paris, j'ai été envahi de monde, des frères, parce que beaucoup de gens me connaissent sur les trucs, l'internet, beaucoup de gens m'appellent. Donc j'avais ces frères, des pasteurs, j'étais avec le pasteur Sango même. Il fallait parler à chaque instant, expliquer les choses à chaque seconde. Parler. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Il y a quelqu'un, il y a une dame qui m'a dit, pasteur, moi et Dieu, c'est fini. Je mets une distance jusqu'à ce qu'il me dise ce qui se passe et que j'en sois, si je ne suis pas convaincu. C'est-à-dire, c'est peut-être convaincu par les argumentations de Dieu. Donc Dieu n'a qu'à se débrouiller pour vous convaincre, mais vraiment là, se justifier. Sinon là, pour le moment là, lui au moins c'est terminé. J'ai dit non, ma soeur. Et elle dit non, je peux parler ma soeur. Quand je le loue comme ça, je me dis, je suis éternel. J'ai dit ma soeur pour moi. Elle dit, c'est qui nous a fait là? C'est qui nous a fait? Elle est passée, je suis énervé. Je ne peux pas te dire, Dieu. Elle veut rien comprendre, tu parles même ça, passe comme ça. Donc, je lui ai laissé se calmer un peu. Je dis, non, mais Dieu, non, mais ce qu'il a fait là, c'est de l'humiliation, pasteur. Mais Dieu, il se fout des gens. Non, mais c'est que des gens. Bon, je laisse faire. Bon, après, on passe ça. Amen. Dieu contrôle tout. Est-ce que tu peux dire quoi? Dieu contrôle tout. Satan ne croit pas qu'il est contrôlé. Non. Il n'y a rien qui veut l'arrêter. Dieu m'a dit. Il n'y a aucune situation qui échappe à ton Dieu.
Amen.
Il faut que tu en sois convaincu.
Amen.
C'est des éléments de conviction que tu. On continue. Troisième. Oui. Oui.
Dans la limite de sa volonté.
Dans la limite de sa volonté. Pourquoi j'ai dit dans la limite de sa volonté? J'ai mis Dieu contrôle tout dans la limite de sa volonté parce que sa volonté est ce qui établit sa vie, établit ses desseins, établit ses plans.
J'ai mis dans la limite de sa volonté parce qu'en réalité, je ne sais pas comment se tromper. Tout va finir par entrer dans cette voie.
Amen.
C'est la fin du film. C'est une façon de vous dire dans le monde, il y a un seul volontaire en réalité qui va finir par s'imposer. C'est Dieu a fini. Les choses vont finir, et puis c'est lui qui sera le.
Voilà, qui a gagné.
C'est pourquoi j'ai mis ça. Je comprends tout à la limite de sa volonté. Et quand on entend tout le monde dans la volonté de Dieu, la Bible est claire sur ça. La seule la volonté de Dieu, sa volonté. Bon. Troisième élément que vous devez savoir, c'est que Dieu est parfait. C'est-à-dire, il est lumière, il est parfait. 1 Jean 1, verset 5. La Bible dit Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de. C'est-à-dire, sa paix, il est parfait. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Je parle des éléments importants qu'un homme doit avoir pour bien faire une analyse et sortir de son analyse un verdict qui colle avec la pensée de Dieu. Dieu est parfait. Dieu est lumière. Ça veut dire quoi? La Bible dit en lui, il n'y a pas de ténèbres. Donc, tout ce qui est mal, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui n'est pas bon, n'en pas dans son champ, dans sa vision. Dieu est lumière. Et c'est tellement important. Hein? Dieu est lumière. Ça te permet de ne pas te tromper dans tes analyses. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Ça veut dire que quand quelque chose est contraire à la lumière, est contraire à la perfection, quelque chose est mauvais ou quelque chose n'est pas une bonne chose, cette chose ne peut pas venir de Dieu. Maintenant, il faut faire une nuance entre la douleur et le mal. Moi, j'ai dit tout à l'heure, entre la douleur et le mal. Quand on dit que quelque chose est mal, c'est mal. Ça veut dire qu'il y a un seul pôle sur la chose. Et le seul pôle, c'est le négatif. Dans l'élément de douleur, il y a deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Maintenant, tu bascules en fonction du choix que tu fais. Dans la douleur. Moi, tout à l'heure, quand il a dit le mal, le mot mal est mal. Quelque chose qui est mal, c'est mal. Il y a un seul pôle sur le mal, il y a un seul pôle sur le bien. Dans la douleur, il y a deux pôles. Tu peux basculer du côté bien ou du côté mal en fonction du choix que tu fais dans la gestion de la douleur que tu passes maintenant. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas rester dans la douleur. Il faut savoir manager la douleur pour sortir du côté positif. Sinon, tu vas sortir du côté négatif. Oui, il est très facile quand on passe une situation de douleur de sortir du côté négatif. Parce que très souvent, une situation douloureuse, une situation de blessure est une situation qui te rend, qui t'enlève ta lucidité. Je te dis, c'est très facile de ne plus être lucide quand on a souffert. Quand on a mal, on n'est plus lucide. Ta façon de penser, de faire, tout change. Tu n'es plus lucide qu'à mal. Mais vous qui êtes des enfants de Dieu, ce matin, tu dois te mettre au-dessus. Amen. Dis à ton frère, j'ai bien ta douleur ce matin. Vous sortez du côté positif. Un autre élément important, Dieu travaille toujours pour sa volonté. Il ne travaille jamais pour autre chose que sa volonté. Genèse 17, verset 1. Il travaille toujours pour sa volonté. un autre élément, Dieu a une seule limite dans le monde, dans la vie, Dieu a une seule limite, c'est sa volonté. À part sa volonté, il n'a plus de limite. Sa limite est sa volonté. Ça, c'est très profond ce que je te dis. Quand tu comprends sa volonté, tu peux connaître ses limites. C'est ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut jamais faire. Mais ça, c'est lié à la perception de sa volonté. C'est pourquoi vous ne devez pas être ignorant par rapport à une situation de crise, par exemple, comme celle-là. Sinon, tu vas combattre Dieu sans t'en rendre compte. Dieu, un autre point, est juste et fidèle. Le psaume 7, verset 10. Il est juste parce qu'il fait toujours justice. C'est-à-dire, il rend à chacun son salaire. Ça également, c'est un élément que j'ai oublié. C'est-à-dire, nul ne restera impuni. Ça également, c'est un élément fondamental. Il est juste. C'est ce que ça veut dire, il est juste. Il est fidèle, ça veut dire qu'il demeure constant dans sa justice. Quel que soit le temps, il rendra justice. Donc tu es toujours juste. Donc que personne ne se sente lésé. Parce que Dieu est juste. Tu peux être, tu peux croire que tu es lésé dans le temps. Tu es juste. Quand tu as cette bonne perception, tu ne fais pas de bavardage. Il ne se trompe jamais. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire, bon, Dieu ne se trompe jamais? Parlons de son immuable. Dieu est immuable. Il ne commet jamais une erreur. Vous dites, par exemple, que Dieu ne s'est jamais trompé de concernant. Ou concernant la Côte d'Ivoire, Dieu ne s'est jamais trompé. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Frère et soeur, je vous parle. Je dis, je ne suis pas mieux placé pour parler. Tout ce qui est du superficiel, enlevez ça de votre esprit. On parle de la Bible. Ah, parce que les gens m'ont acculé quand j'étais en France. Oui, mais pasteur, pourquoi tel type a dit ça? Et puis, ce n'est pas arrivé. Est-ce que Dieu est un menteur? Pourquoi tel a dit ça? Pourquoi Dieu a nous a promis ça? J'ai arrêté toutes ces histoires. Dieu ne se trompe jamais. Les hommes peuvent se tromper. Les hommes peuvent être des menteurs. Mais Dieu, il reste vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle que soit la situation, Dieu reste vérité. Amen. C'est pourquoi, quelle que soit la situation que tu traverses, que tout soit faux, y compris toi, et que Dieu reste vrai. Amen. J'ai dit, que tout soit faux, y compris toi, dans tes jugements, dans tes analyses, de ta façon de t'asseoir et de manger, et que Dieu seul soit vrai. Dieu ne se trompe jamais.
Il ne ment jamais.
Il ne ment jamais, il ne se trompe jamais. Maintenant, lorsqu'on dit Dieu ne se trompe jamais, alors il faut également comprendre que, comprendre Dieu pour savoir sur quoi il ne se trompe pas. C'est pourquoi je vous donne plein d'éléments pour vous permettre de faire des analyses objectives. Des moments douloureux dans lesquels vous êtes. Pour ne pas rester dans ces moments-là et sortir par la mauvaise porte, mais sortir par la bonne porte.
Amen.
Vous devez sortir par la bonne porte. Parce que la douleur est quelque chose qui est à chaque étape de la vie. Aucun homme ne peut échapper à la douleur. Oui, puisque c'est-à-dire de la naissance, c'est quelque chose qui est le parcours de l'être humain. À toutes les étapes de ta vie, c'est un passage. Mais donc, on a lu un passage qui dit la douleur ne fait pas quoi? Dis-moi ça, le dernier passage ne se guérit pas, je ne sais pas dire comme ça. La douleur n'a pas de remède. Ça me fait un peu bizarre. Il dit la douleur n'a pas de remède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui essaie de guérir. Bon, je ne sais pas si je cherche le bon mot, parce que je cherche ça. Toute la nuit, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire, ici, la douleur n'a pas de remède. La douleur n'est pas quelque chose qui est comme une plaie qu'on guérit. Mais on ne guérit pas la douleur, mais on peut passer la douleur. C'est-à-dire, on veut. Oui. Non, pas atténuer. On veut. Je ne sais pas si c'est le mot surmonter. Hein. On peut surmonter ou on peut laisser la douleur derrière soi. C'est surmonter, voilà. C'est-à-dire, on peut surpasser ou surmonter. C'est-à-dire, on ne guérit pas la douleur de telle sorte que j'ai eu une douleur. Je guéris et puis la douleur meurt. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Comme une plaie qui était ouverte, qui guérit et puis il n'y a plus de plaie. Mais c'est un peu comme si tu avais une plaie et puis tu peux prendre la plaie là, la déposer et continuer ton chemin, il n'y a plus de plaie. C'est un peu ce truc là que je cherche, ce français là, c'est surmonter. Surmonter est mieux. Donc la Bible dit, la douleur n'a pas de remède. Voilà, ce n'est pas, en français, ce n'est pas bien explicite. La douleur n'a pas de remède. Ça veut dire que tu dois faire certaines choses pour passer l'étape là. Mais on ne guérit pas. On ne guérit pas pour dire, bon, je guéris, je suis dans l'étape où je guéris. Mais on passe l'étape où l'étape nous ramène en arrière. Est-ce que vous comprenez ça un peu maintenant? C'est-à-dire, c'est comme si tu étais à l'escalier ici, au deuxième niveau. Soit tu montes, soit si tu fais un pro, le deuxième niveau te ramène en arrière. Le deuxième niveau a cette caractéristique-là que tu ne dois pas durer là-dessus. Tu dois te débrouiller pour monter. Mais dès que tu es sur lui, là, il attend par exemple 10 secondes. Si tu n'es pas monté, lui, il te descend.
Amen.
Il n'a pas la capacité de te faire monter, mais il a la capacité de te faire descendre. Monter est ton choix, mais descendre s'impose à toi.
Amen.
Voilà ce que la douleur fait. C'est pourquoi je dis, vous n'avez pas de choix. Quand vous passez une situation de douleur, vous ne devez pas perdurer dans la situation, rester dans la situation, pleurer sur votre sort. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous passez l'état. Parce que quand vous prenez le mot douleur dans la Bible, je vous ai parlé de ce que j'appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, pour comprendre le sens, quand Dieu dit quelque chose, le sens originel d'une chose, il faut souvent faire référence à sa première mention dans la Bible. Et quand on fait référence à cette loi de la première mention, on se rend compte que la première fois, ou pratiquement la première fois où la Bible a parlé de douleur, c'est lorsqu'il y a eu péché. Et que Dieu est venu pour dire, désormais, toi femme, tu enfanteras dans la... Donc, quand on prend, par exemple, ce verset-là, alléluia, parlant de la douleur de l'enfantement, dans Genèse, comment le verset? Il dit, tu enfanteras avec douleur.
Genèse 3, verset 14.
Oui, vas-y.
L'Éternel Dieu dit aux serpents, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Mm-hmm. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière.
Va à la femme.
Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari.
Merci. Tu enfanteras, est-ce qu'on peut répéter, tu enfanteras avec douleur. Donc dans la Bible, quand on parle de douleur, dans le sens littéral, la douleur dans l'esprit de Dieu est toujours liée à l'enfantement. C'est-à-dire, il n'y a pas de douleur pour douleur. Mais il y a toujours des douleurs qui enfantent. Donc la douleur, en fait, poursuit toujours un objectif. La douleur de l'enfantement. La douleur de... de l'enfantement, la douleur de l'élévation. C'est-à-dire la douleur est toujours liée à l'étape suivante. La douleur est toujours liée à quelque chose qui va sortir. Alléluia, dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais pourquoi la Bible présente les choses ainsi? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tu n'as pas de choix. Quand tu passes la douleur, d'enfanter ou de passer à une étape suivante, sinon tu te détruis. Il y a une autodestruction qui se déclenche. Je suis venu vous parler, peuple de Dieu. Écoutez ma voix ce matin. Je dis, il faut sortir de la douleur. Il faut sortir des situations de difficulté. C'est vrai, nous avons eu tout ça. Mais le temps de sortir, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut dire c'est maintenant? Pas demain. Tu as une balle, je suis d'accord. Quelle que soit la situation que tu as subie, le temps de sortir et de laisser le passé passer, c'est maintenant. Tu dois oublier. Tu dois décider d'aller à l'étape suivante. Sinon, automatiquement, va se déclencher dans ta vie un mécanisme d'autodestruction indépendant de ta volonté. Moi, nous sommes les mois à venir, tu n'en sortiras plus. C'est pourquoi la Bible nous a dit de veiller les uns sur les autres. Pour ne pas que l'amertume s'attachant à certains contamine plusieurs. Je sais, on peut être brisé. Quel que soit ce qui est arrivé, c'est maintenant le temps de pardonner, le temps de sortir pour aller vers l'avenir. Pourquoi? Parce que le meilleur est à venir. Est-ce qu'on peut dire avec moi le meilleur est à venir? Tu me dis, pasteur, j'ai eu trop mal, tu ne peux pas comprendre. Oui, tu n'as pas de choix que de laisser le mal derrière toi. Pourquoi passer toute ta vie à venir t'arrêter et puis à pleurer? Demandez à ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un, je passe très vite les événements. Je ne suis pas trop émotionnel. Un homme qui a trop d'émotions, un homme qui s'en sort. Je suis calme. Dégage. Oui, dit Amen.
Oui.
Et l'église doit être en première ligne de ça. Parce que je vous dis, la crise que la Côte d'Ivoire fait sans précédent. Et étant une crise aussi douloureuse et difficile, il faut que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Et ça va commencer par vous. Dit
Amen.
Ça va commencer par vous. Vous devez vider vos cœurs. Vous devez dire, c'est vrai, on a souffert. Ça a été difficile, mais on laisse tomber. Parce que je te dis, quelqu'un que tu ne libères pas, tu lui donnes accès à ta vie, il se balade dans tes pensées matin, soir. Matin, midi, soir. Et il va te faire mal même. Pourquoi vous retenez les choses? Laissez les choses passer. Le passé est passé. Ce que la Côte d'Ivoire a vécu était déjà hier. Est-ce que quelqu'un peut dire avec vous? Vous n'êtes pas d'accord. Je fais celui qui. Je fais mon travail. La voix qui crie dans le désert. Regarde quelqu'un que tu dois dire lui. Quel que soit ce que tu as souffert, laisse tomber. Dis à cause de Jésus, je te demande pardon, laisse. Pleure un bon coup, et puis quand tes larmes coulent là, dis larmes, pendant que tu coules, c'est tout ce que j'ai souffert, c'est plus ça passe. Un homme n'est pas libre tant qu'il ne décide pas de passer sa douleur. La douleur rend prisonnier. Et ce matin, je n'ai pas envie que ce peuple formidable que vous êtes là, vous soyez prisonnier. Dis Amen encore.
Amen.
Ton Amen ne me convainc pas.
Amen.
De choses que je peux te dire. Mais Dieu est bon. S'il te plaît, lis-moi 1 Corinthiens 5, verset 1. Non, le un côté distrait.
Vas-y.
Le mal.
1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Dans le mot tentation, dans votre traduction, là c'est douleur. Aucune souffrance, aucune douleur qui a été imposée à votre vie, c'est-à-dire ne peut en fait être destinée à vous écraser. Mais dans la compréhension biblique des choses, une douleur entre dans la vie d'un homme pour qu'il enfante. Maintenant, s'il n'y a aucune douleur qui a la capacité, normalement, ou qui a été imposée pour te détruire, parce que tu as ce qu'il te faut pour passer la douleur, alors, s'il te plaît ce matin, ne permets pas à ta situation de souffrance de t'emporter. De créer en toi des épines, des ronces, de faire en sorte que ton cœur devienne un cœur où tout sort d'animaux bizarres vont circuler dedans. Une broussaille. La grandeur d'un homme, où les hommes qui sont grands sont ceux qui sont capables, à un moment donné, de s'asseoir avec ceux qui ont été brouillés hier. Et pour la vie, on laisse tomber la vie pour tout. Parce que rien ne vaut la vie. Est-ce que tu peux dire plus fort,
amen?
Plus fort, 1 Pierre 2, verset 11. Oui.
1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
Il dit, bien-aimé, si tu m'étais, c'est bien-aimé, quoi?
Je vous ai
étranger et
voyageur sur la terre.
Sauf des voyageurs, des étrangers. Mais un étranger, frère, il est là pour ce qu'il est venu chercher, un voyageur. Mais mon frère, pour perdre le temps, quel que soit ce qui arrive, si tu peux comprendre Dieu, aucun homme ne peut te prendre ce que Dieu t'a destiné. Ça veut dire, quel que soit ce qui arrive dans une nation, quelle que soit la personne que Dieu établit, il aura toujours ta part. Et ta part, tu l'auras. Oui. Le plus important, c'est la nation. C'est l'avenir. Il faut sortir maintenant de tout ce qui vous maintient encore dans une situation de oui, frère, il faut en sortir. Il faut en sortir. Ésaïe 17, verset 11. Apprends à gérer tes douleurs, à les affronter avec courage. Est-ce qu'il va te donner de la grandeur dans la vie? Oui, vas-y.
Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haine, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède.
Et la douleur est sans remède. Merci. Je te pose une dernière question, puis on va terminer, on va continuer plus tard. Question. Est-ce que c'est parce que quelque chose ne se passe pas forcément comme tu veux? Que Dieu a échoué? Non, réponds-moi. Non! Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'échoue jamais. Et retenez une chose, Dieu ne fera jamais les choses comme vous le pensez. Tu sais, revenons à la crise, vous voyez. C'est l'actualité, il n'y a pas de problème. Les gens ont prié, les gens ont jeûné, les gens ont fait tout ce qu'ils peuvent faire, ils ont prié. Quelqu'un me dit, mais Dieu, Dieu, il n'est pas sérieux. Mais regarde, tous ces gens-là, c'est comme si dans un truc de boxe, il y a quelqu'un qui dit, moi j'adore Jésus, puis l'autre dit, moi j'adore le diable. Et puis les deux, et puis c'est le gars qui adore le diable là. Et comment Dieu peut accepter ça? Nous voyons que c'est trop simpliste comme raisonnement. Alléluia. Est-ce que c'est parce que quelque chose n'arrive pas? Tu dois prier. Je veux toutes les prières que vous avez faites là-dedans. Vos prières sont nulles, hein? Y compris moi. Mais je ne crois pas que tes prières soient nulles. Alléluia.
Amen.
Et si je te posais un peu la question, est-ce que c'est ma prière qui a fait tout ce qui est arrivé? Tu n'as pas bien cette question. Tu ne veux pas poser cette question, ça fait bizarre. Parce que souvent les gens prient, c'est un peu comme la femme, Pierre. Ils l'ont arrêté. L'église se met ensemble pour prier, dit au nom de Jésus, on déclare, nous avons la foi. Qui sort maintenant au nom de Jésus. Maintenant, quelqu'un frappe à la porte. Elle voit que c'est Pierre. Elle referme sur le gars. Parce qu'elle ne peut pas imaginer que sa prière peut s'exaucer aussi la vie. Parce que Dieu est plein d'hommes. Ou bien il est un homme.
Non.
Vous savez, si vous voulez marcher avec Dieu, il faut être prêt à marcher avec lui. Parce qu'il n'est pas un homme. Et il ne sera jamais un homme. Il ne fera jamais les choses comme tu penses. Et si c'est toutes les prières des chrétiens concentrées la même prière, précipiter les choses comme aujourd'hui là. Et puis tu peux sortir pour revenir à l'église. Et si c'est Dieu? Tu seras en train de l'insulter, de le blâmer, alors que tu as participé à ce que sa volonté s'accomplisse. Tellement souvent, on n'est pas sérieux nous-mêmes. Donc il faut arrêter de blâmer Dieu parce que tu peux attendre une volonté qui n'arrivera jamais. Dieu n'est pas un homme. Est-ce qu'on peut dire Dieu n'est pas un homme? Mais ce que les gens. Vous savez, un jour, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez voir que dans la gestion d'une nation des affaires du monde, je vais te démontrer que Dieu n'a même pas besoin de quelqu'un qui le craint. Gérer une église, pas gérer une nation. Moi, je n'ai pas besoin d'être président. Ça n'intéresse même pas Dieu que je le sois. Parce que je peux être un mauvais président. Je suis honnête avec vous. Vous êtes mon peuple. Je vous dis la vérité.
Amen.
À chacun de réfléchir. À chacun de prendre ce qui est bon pour lui. Mais je dis. Que soit la douleur, il faut savoir à un moment donné très vite sortir et puis continuer parce que au-delà de la situation, Dieu t'envoie quelque part.
Amen.
Et c'est cela qui est important aux yeux de Dieu. Ton avenir compte plus que ton passé.
Amen.
Et pour ton futur, tu es prêt à tout. Pour ton avenir, tu es prêt à tout. Pour ce que tu seras, tu es prêt à tout. Laissez le passé passer. Ne priez pas pour vous voyez, il reviendra. La vie est comme une course de marathon. Chacun fait sa partition, il laisse le bâton dans la génération qui suit. Un jour, nous autres là, on sera tous mieux ici. On nous a pas trop continué la course. Le plus important, c'est la nation. Aucun homme ne peut bouffer toute la richesse de la nation. Il y a longtemps qu'on était petit, quand on regardait les gars qui marchaient avec le four, on dit, hé, nous on va grandir, est-ce qu'on va avoir un peu de moyen? Parce que les gars mangent beaucoup. Mais on a grandi, on mange aussi, maintenant c'est pas fini. Mais les enfants ont venu, vont manger, ça sera pas fini.
Amen.
Parce que Dieu, il est Dieu. Pourquoi vous voulez vous embêter des histoires de vos têtes dit que avancez, vous êtes des enfants de Dieu, le meilleur est à venir. Pensez vos cœurs et allez vers la paix. Allez vers la paix. Dis à ton frère, va vers la paix. Qu'aucun chrétien ici ne soit trouvé dans autre chose que la paix. Et priez pour la Côte d'Ivoire, que la paix demeure, que la paix s'enracine. Vous avez vu un peu, cette situation de crise doit amener chacun à comprendre que vraiment la paix n'est pas négociable. Il m'arrivait souvent de marcher en allant dans les trucs comme ça, et puis je regarde comme ça, je ne peux pas.
Mais la course, depuis je regarde comme ça autour de moi. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi il pleure?
Mais il ne savait pas pourquoi. Je disais, il n'y a pas de bruit. Je dis, mais ces nations comme la France et tout ça, les États-Unis, ils sont peut-être plus pécheurs que nous. Ils ont peut-être même d'être pires, ils ne puissent même pas dire, on prie trois fois trois. Et eux, avec la tranquillité, ils en sont tranquilles. Ils sont tranquilles, ils sont paix. Les pasteurs mangent l'œuvre de Dieu, ils font ce qu'ils ont à faire, les bêtises sont tranquilles. Quelqu'un peut se lever, prendre le micro, il parle de Jésus. On l'écoute, on ne l'écoute pas. Il y a tellement de liberté. Tu peux venir, Jésus, tu peux. Devant les gens qui vont se voir à Paris. Souvent, ce qu'ils font à Paris, ils ne peuvent pas faire avec toi. Tu peux marcher en ta paix. Culotte, un, B, un, long. Et puis, on te regarde même pas. Il y a des gens souvent, s'il est à Abidjan, mais je vais mettre. Ça va pas, les gens dans les rues, ils s'en foutent. Dans la métro, ils s'en foutent. C'est le pays de liberté. Les gens s'en foutent. Pourquoi ils ont la tranquillité, ils ont la paix? Ils s'en foutent pas ce qui se passe ailleurs. Ils sont petits comme ça, ça va ce qui se passe. Ils s'en foutent, ils sont en paix. Dieu veut donner la paix pour que toi, l'œuvre de Dieu avance, que tu travailles. Même est-ce que c'est pas important? Je veux te dire une chose, ça ne dépend pas de qui est à la tête ou qui n'est pas à la tête. Dieu veut donner la paix à ton niveau. Aller vers l'avenir. C'est lui qui m'intéresse. Je veux vous dire, allons vers l'avenir. Laissons le passé passer. Élie, il n'y a personne qui est ton ennemi. Il n'y a personne qui est ton adversaire. Même s'il n'y a pas, tu sais que tout dit. L'amour.
Smile.